Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Kid. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1-2-1-2. OK, c'est bon, on peut y aller.
Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres.
Sophie Durocher.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez l'expression « la vengeance est un plat qui se mange froid ». Bon, des fois, il se passe des choses au Québec, puis on se fait tomber sur la tomate, puis on se fait dire qu'on est des intolérants, puis qu'on est donc absolument, là, quasiment des xénophobes, puis qu'on n'est donc pas, on fait pas preuve d'un esprit d'ouverture. Puis là, des fois, il se passe une situation similaire dans une autre province canadienne. Pas exactement pareil, mais en gros, dans les grandes lignes. Puis là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit que ces autres provinces-là sont intolérantes, xénophobes, refermées sur elles-mêmes, la peur de l'autre, avec un A majuscule au mot autre? Ben non! Ben non, c'est ce genre de vocabulaire qu'on utilise juste pour le Québec. Alors, je vous donne un exemple qui me fait quand même assez sourire. Ces derniers jours, il y a eu des manifestations en Colombie-Britannique, des étudiants internationaux qui sont très, très, très fâchés parce que la province de Colombie-Britannique a décidé de changer ses règles pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat qui souhaitent obtenir le statut de résident permanent. Il y avait un programme qui existait en Colombie-Britannique qui était une sorte de voie rapide, appelons-la comme ça, pathway, une voie rapide pour obtenir de façon accélérée, facilitée pour obtenir la résidence permanente pour les étudiants étrangers au doctorat et à la maîtrise. Ben, la Colombie-Britannique a décidé de changer les règles et se rendu compte que c'était comme trop facile. Tu t'en vas étudier là-bas, bing-bang, dans certains programmes, puis paf, t'as la résidence. Ben, la Colombie-Britannique a dit, je m'excuse, mais à partir de maintenant, on va augmenter nos exigences linguistiques. Les exigences linguistiques, on va exiger un niveau 8 sur 10 de compréhension de l'anglais. D'être capable d'écrire l'anglais, d'être capable d'entendre. Quand t'entends l'anglais, tu comprends ce que les gens disent. Pas un niveau 3, 4, 5, niveau 8 sur une échelle de 10. Ça va être une exigence. Là, t'as les étudiants étrangers qui sont fâchés. Ils disent, qu'est-ce que c'est ça, cette exigence-là? Comment ça se fait que vous exigez qu'on parle anglais dans une province anglophone? Ben, les petits amis, c'est exactement la même chose qu'on demande au Québec. C'est exactement ça, le programme de Pascal Derry, de dire aux étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec et qui étudient dans les universités anglaises au Québec. On veut juste exiger, c'est d'un niveau 5 qu'on exige au Québec. Après 2 ans, on dit, on veut que vous parliez français pour être capable de vous intégrer dans la société québécoise, puis on se fait traiter de tous les noms. CTV, La Gazette, CJAD, tout le monde nous tombe sur la tomate, le Globe and Mail, le National Post. Ben, c'est exactement ça qu'ils font en Colombie-Britannique. Very bad people in BC. Very, very bad people.
Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher.
Quand on s'intéresse aux statistiques, on peut découvrir des phénomènes sociaux qui, autrement, passeraient peut-être inaperçus. Puis des phénomènes sociaux qui nous disent quelque chose sur le monde dans lequel on vit. Et c'est justement à propos d'un rapport de l'Institut de la statistique, oui, du Québec. C'est à propos de ça que veut nous parler Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie. Bonjour Rémi, comment
Bonjour,
vas-tu?
Ça va très bien toi-même.
Alors, ben oui, ça va très bien. Quoique, quand je regarde justement les chiffres que tu me soumets de l'Institut de la statistique du Québec, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. De quoi s'agit-il, Rémi?
Ben, écoute, ça va être une interprétation libre parce que l'Institut de la statistique du Québec n'offre pas d'explication, mais ce que ce qu'il nous révèle, encore une fois cette année, c'est que Montréal perd au profit des régions ses habitants. Donc, en d'autres mots, il y a plus de gens qui quittent Montréal vers les régions qu'il y a des gens des régions qui s'installent à Montréal.
Un déficit migratoire.
Oui, ça, c'est un phénomène qu'on connaissait bien, sauf que cette année, l'ISQ s'intéresse à la tranche d'âge 15-29 ans. Mm-hmm. Et on se rend compte que depuis 20 ans, on est en chute libre complètement. Donc, les jeunes de 15 à 29 ans, au tournant des années 2000, ils étaient 20 000 par année à venir s'installer à Montréal en provenance des régions. Donc, on imagine principalement pour venir étudier, que ce soit au cégep,
cégep
ou à l'université.
Ouais.
Et là, cette année, ben en fait, l'année passée, c'était 9 000. Donc, on a perdu la moitié, plus de la moitié des gens qui ne s'installent plus ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoute, bon... Comment Montréal s'est transformé depuis 20 ans? Est-ce que c'est plus violent? Est-ce que c'est plus cher qu'avant? Oui.
Plus sale?
Aussi, mais en même temps, il y a 20 ans, c'était aussi plus cher de vivre à Montréal, plus violent de vivre à Montréal.
Qu'en région.
Donc, moi, je n'irais pas là, moi.
Ouais.
Il y a une chose qui a changé, en tout cas. Et avant de la révéler, juste quand même insister sur une chose. Le phénomène est assez normal. À partir du moment qu'on se dit, si les gens viennent plus ici, c'est parce que peut-être qu'ils trouvent que Montréal ne ressemble pas au reste du Québec. Ça, c'est un phénomène qu'on observe partout dans le monde. Hein. Faudrait pas être injuste là. Quand vous allez à Paris, c'est sûr que Paris ne ressemble pas aux régions en France.
Paris n'est pas la France.
Paris n'est pas la France. Ouais. New York n'est pas les États-Unis. Bon, ouais. Ça, c'est parce que d'après moi, c'est là qu'on se dirige. C'est là, d'après moi, que se trouve la réponse. Les gens trouvent que Montréal ne ressemble plus au Québec. Ça a toujours pas ressemblé au Québec, mais là, je pense que l'écart s'est creusé. Mm-hmm. De quelle façon? Ben, est-ce que c'est parce que les gens sont plus progressistes à Montréal qu'ils le sont en région? C'est un fait.
En région, on serait plus conservateur, plus traditionnel. Ça, on le sait.
Ça fait des années. Quoique, en 2018, quand on regarde la carte électorale, Montréal avait voté rouge et orange et tout le Québec avait voté bleu. C'est la même chose qui s'est reproduite en 2022. Et sais-tu quoi? C'est encore la même chose qui va se reproduire en 2026. Mm-hmm. Donc, est-ce que c'est ça la réponse? Je sais pas. Là, je laisse un suspense. Là.
Tu laisses le suspense. Mais la question quand même se pose parce que si tu as entre 15 et 29 ans, tu aurais plus tendance à justement à adhérer à des idées plus progressiste. Je prends juste un exemple parmi 28 000 autres, mais il y a beaucoup de gens qu'on connaît qui, peut-être dans leur coin de pays, dans leur coin du Québec, ne peuvent pas, par exemple, vivre leur homosexualité au grand jour et se disent, ben moi, je vais aller à Montréal, parce qu'à Montréal, les gens sont beaucoup plus ouverts et il y a beaucoup moins... Et c'est pas une caricature que je fais. J'en ai plein de mes amis qui sont gays et qui ont vécu une adolescence difficile parce que, mettons, dans un certain milieu agricole, dans le fin fond du Québec, ben, ils ne pouvaient même pas dire à leurs parents qu'ils étaient gays. Alors qu'à Montréal, ils arrivent puis ils se fondent dans la foule et même on célèbre l'homosexualité.
Mais tu as tout à fait raison. Mais pourquoi ne viennent-ils plus alors?
Ah,
ou
voilà,
alors pourquoi
c'est ça,
viennent-ils
la question.
En moins grand nombre? C'est fini le suspense. La raison, d'après moi, c'est la langue.
Ben oui.
Parce qu'il s'est passé quelque chose dans les 20 dernières années. Mm-hmm. Et en fait, il faut observer le recensement de 2016 et 2021. Il y a des données qui ont été révélées dans ces 5 années-là qui ont fait en sorte que Montréal a changé. Premièrement, la langue parlée à la maison, ce n'est plus le français. Hein? C'était le français en majorité en 2016. Ce n'est plus le français. On est à 48,3% seulement de gens à Montréal qui parlent le plus souvent le français à la maison. Des gens dont la langue maternelle est le français, c'est 44%. Mm-hmm. Donc, si vous avez 17-18 ans et que vous êtes progressiste et que vous vous dites, moi, je veux aller vivre à Montréal, hein, c'est la ville, c'est une expérience, au pire, je reviendrai après. Mais si Montréal est devenue anglaise, ben c'est quand même un assez grand dissuasif. Peut-être que vous allez vous dire, non, en fait, ça, je suis pas prêt à vivre ça, par contre. Je suis un Québécois, je veux vivre en français. C'est plus important qu'on le pense pour les gens. Et ça, c'est pas un phénomène qu'on avait observé il y a 15-20 ans. Même si, il y a encore 15-20 ans, les gens étaient plus conservateurs en région, plus progressistes ici. Mais c'est un truc qui est quand même assez dangereux, parce que quand on sait aussi que Montréal est la deuxième ville universitaire en Amérique, derrière Boston, là, on se dit, ben, peut-être que l'objectif de Valérie Plante, qui est toujours de cibler ses politiques autour de ça, bien, elle va le perdre, cet objectif-là. Elle va être vaincue, parce que si les gens ne viennent plus à Montréal, ou en tout cas, ils viennent de moins en moins à Montréal,
nombre,
exactement,
ouais.
Parce qu'ils sont quand même assez nombreux à venir, quoique 9 000, c'est pas beaucoup, là.
Non, c'est ça, ça me paraît.
C'est pas grand-chose, là. Quand vous savez qu'il y a une McGill qui vous accueille, l'UQAM, Université de Montréal, enfin, voilà, tous les cégeps aussi, c'est pas beaucoup. Donc, est-ce que Montréal va perdre son statut de ville universitaire? C'est la question qu'on peut se poser aussi.
Et il y a peut-être aussi autre chose qui est que, En dehors de Montréal, il y a d'excellentes universités et d'excellents cégeps qui font en sorte que, à tout prendre, ben, t'es peut-être mieux aller étudier à l'Université Laval où tu sais que tu vas avoir non seulement un excellent diplôme, mais qu'en plus, tu vas pouvoir étudier en français. Et quand tu vas aller dans la ville de Québec, ben, tu vas être accueilli en français. Sauf qu'il faut faire attention de ne pas aller un petit peu plus loin, d'aller dans Charlevoix, parce qu'au Club Med, ils ne sont pas capables de parler français. Ça, là. Oui. Je ferme la parenthèse. Mais donc, il y a peut-être ça aussi. Donc, c'est vrai que tu dis que l'Institut de la statistique nous donne ces chiffres-là. Et qu'il faudrait les interpréter. Et c'est là qu'évidemment, j'allais dire ton background, mais j'ai trouvé un autre mot.
Mon historique.
Historique, voilà, de sociologue devient intéressant. C'est justement d'essayer de trouver des explications. Alors, c'est assez amusant. Je ne sais pas si tu as vu donc un texte de Alison Haynes dans la Gazette.
Oui, oui, plutôt.
Plutôt. Et là, donc, elle... ben, évidemment, alors, c'est évidemment... Parce qu'il y a...
Vas-y, je te laisse aller.
Parce que Alison Haynes, c'est une chroniqueuse dans la Gazette qui a pondu à quelques reprises des petits textes pas hyper sympathiques pour les francophones. Et là, elle dit que dans le fond, on est en train de réaliser notre propre prophétie en disant que bon, que Montréal est sale, chaotique, pas sécuritaire, congestionné, etc. Mais elle dit que aussi le gouvernement du Québec contribue à cette image-là de Montréal en n'arrêtant pas de sortir l'épouvantail de l'anglais. Donc, on est à la fois responsable de cette situation-là et en plus, on est responsable si on dénonce la situation.
C'est exactement ça. Mais ça, c'est une leçon de rhétorique numéro un. Il faut donner une autre explication au lieu de tout simplement cracher sur celle qui est déjà offerte.
Ben voilà.
Parce que c'est exactement ça qu'elle fait. Elle nous dit, c'est pas vraiment surprenant comme phénomène. Depuis des années, il y a la CAQ qui dit qu'à Montréal, les immigrants ne s'intègrent pas, que Montréal s'anglicise. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai?
Mais voilà.
Non, parce que c'est ça, parce que le travail d'un gouvernement...
Parce qu'on est coupable de l'avoir constaté.
Ben voilà.
Puis elle ressort une vieille déclaration de M. Boulet, qui était à l'époque ministre de l'Immigration. Au moins, elle, à la différence de McLean's, elle prend la peine quand même de rappeler qu'il a été forcé de s'excuser, ce que le gars de McLean's qui parlait de Montréal n'a même pas fait. Mais comme si... Je veux dire... Est-ce que quand Boulet il avait dit ça là en pleine période d'élection qui avait fait un portrait caricatural des immigrants, mais ça a provoqué un tollé au Québec.
Tout simplement.
Le fait de rappeler ça constamment, c'est comme si on disait que tu sais, comme si on rappelait constamment l'affaire de Parizeau, comme si Parizeau, quand il dit c'est la faute de l'argent et du vote ethnique, comme si tous les Québécois pensaient ça, alors que les Québécois avaient été scandalisés qu'il ait dit ça.
Oui,
à un moment donné, il faut arrêter de nous taper ça à tête.
Oui, puis il faut arrêter aussi d'appuyer le postulat selon lequel ces gens-là sont impunis, parce qu'il n'a pas été impuni.
Mais
il a perdu le ministère de l'Immigration. Il aurait pu perdre même sa circonscription. Enfin, ça a été difficile pour lui. Mais la leçon, en fait, de tous ces chiffres-là, c'est que les jeunes doivent revenir à Montréal. Parce que Montréal a été conquise en septembre 1760. Elle est redevenue française, redevenue anglaise. Ça s'échange la balle depuis ce temps-là. Et là, on assiste à une nouvelle conquête de Montréal.
Alors, tu lances un message aux jeunes à travers le Québec. Le 11 000 qui manque, là. Les 11 000 qui manquent, parce qu'on est passé de 20 à 9 000, revenez à Montréal. On a besoin de vous, on a besoin de vos forces vives. On a besoin que ça percole à Montréal et que ça percole en français. Donc, c'est peut-être... L'avenir de Montréal passe peut-être par les 15-29 ans qui vont venir étudier au cégep et à l'université.
Dit le gars qui se magasine quand même une petite maison à l'extérieur de Montréal en plus. Donc, c'est un peu hypocrite, mais... Moi, j'ai 30 ans maintenant. J'ai plus 29 ans, donc je suis plus dans cette...
Quand est-ce et quand ton anniversaire?
Dimanche.
J'ai eu 30 Dimanche, ans.
Ouais,
anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire, jeune
gentil,
homme.
Merci, Sophie, merci.
Voilà. Tu viens de basculer dans la trentaine. J'espère que les cheveux gris, quand même, te causent pas trop de problèmes.
Pour le moment, ça va bien.
Pour l'instant, ça va bien. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire, Rémi
gentil,
Villemur.
Bye.
Et à très bientôt.
Bye-bye.
Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure.
Jean-François Barry, bonjour.
Allô, Sophie.
Tu sais que notre discussion l'autre jour, où on avait discuté des mérites et des non-mérites de la vidéo de Jean-René Dufort qui s'en prenait à Guillaume le Métis Vierge, ça a comme...
Moi, j'ai vu.
Les chiffres.
Mettons, sur mes médias sociaux.
Ah oui, parce que des gens
toute la fin de semaine.
Pourquoi? Il y a des gens qui te l'ont reproché?
Non, mais en fait, ben oui.
Oui?
Oui, entre autres, il y en a qui disaient bravo, il y en a qui disaient qu'ils me le reprochaient, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas écouté, parce que j'étais pas en train de défendre Guillaume Lemaitre.
Ben
je disais, puis j'étais pas en train de pourfendre Jean-René Dufort non plus. Je disais...
On avait une discussion
là,
nuancée.
Ben
oui.
On peut-tu, là, Jean-René l'a fait, là... Toutes ces jokes-là, on passe à autre chose. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, quand notre nom, et là, j'ai pas le bon français pour dire tagué, tu sais, sur les médias sociaux, quand notre.
Honnêtement, pas Candice. C'est-à-dire que quand notre nom apparaît identifié,
ben,
ouais, merci beaucoup, Tristan.
Comment? C'est quoi le bon mot?
Identifié.
Bon, identifié.
Ou référencé.
Notre nom de domaine.
Ouais.
Ben, évidemment, à chaque fois que quelqu'un le repartage.
Ça fait ding-ding-ding, ben oui.
Ben oui. Non, mais moi, j'ai pas le ding-ding-ding, mais quand j'y allais, je disais, oh mon Dieu, 22 nouveaux commentaires là-dessus. Donc oui, j'ai vu, puis là, ben quand c'est repris par tous les sites qui s'amusent avec la formule aussi, parce que
oui,
ça
les
veut pas
dire... les sites à potins s'amusent.
T'es plus,
hein?
En guillemets, donc c'est pas vraiment ce que t'as dit, c'est une interprétation de ce qu'ils ont dit, mais là, ça fait boule de neige. Alors, ça a été beaucoup vu, tant mieux.
Mais c'est intéressant, tu viens de parler de deux phénomènes, puis on parlera de ton sujet après, je trouve ça important, c'est qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène des gens qui commentent une vidéo sans l'avoir regardée, en se basant uniquement sur le titre, et ça me tombe sur les rognons sur un moyen temps. Moi, régulièrement, je vais voir, tu sais, je tape et je dis aux gens, pouvez-vous, s'il vous plaît, juste, ça va vous prendre 5 minutes. Regardez-le avant de le commenter, parce que peut-être que c'est exactement le point que vous apportez, c'est peut-être exactement ce qu'il y a dans la vidéo, ou c'est peut-être exactement le contraire. Donc prenez le temps. Et le deuxième truc que tu dis, c'est que les fameux sites à potins qu'on salue en passant, parce qu'ils sont peut-être en train de nous écouter en ce moment, qui prennent une information et qui la tordent complètement. Je vais juste te donner un exemple. Il y a quelques années de ça, j'avais écrit une chronique extrêmement négative sur un film dans lequel jouait Debbie Lynch White, le film sur la Bolduc.
Ouais.
J'avais trouvé ça assez mauvais.
J'ai rien dit sur Debbie Lynch White. Pas grave.
Non, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Tu peux avoir mauvais goût, là. T'as d'autres qualités.
Je te laisse aller.
Mais donc, je n'ai pas dit un mot sur Debbie Lynch. J'ai jamais dit qu'elle était pas bonne ou rien. Et là, il y a un site à potins qui a écrit quelque chose comme « Sophie Durocher fait de la peine à Debbie Lynch White » ou « s'en prend à Debbie Lynch White ». Mais c'est que... Non! Jamais! Arrêtez de nous faire dire des choses qu'on n'a pas dites. C'est vraiment fâchant.
Ben écoute, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur les deux choses. De un, le grand titre, puis tu sais, malheureusement, présentement, il y a beaucoup de courses au clic, donc le titre se veut accrocheur pour que les gens cliquent dessus. On va se dire les vraies affaires et tout le monde l'utilise.
Ouais.
Mais ça, c'est comme ça depuis toujours. Souviens-toi, moi je disais souvent, quand je faisais de la radio plus traditionnelle ou que quand les gens lisaient plus les journaux, les gens lisaient le grand titre du journal, ils lisaient pas nécessairement le titre de l'article. Et cette semaine, moi je me fais un devoir de ne pas répondre, parce que si on se met à répondre à ça sur X puis sur Facebook, ça finit plus.
Ouais.
Il y a des gens qui me reprochaient exactement ce que je venais de dire. Donc ça voulait dire qu'il était d'accord avec moi, mais il avait juste pas écouté.
Puis là,
il voyait le commentaire de quelqu'un que eux autres suivent, puis là, il se permettait de... Fait que là, tu fais, OK, mais on vire en rond, ça finit plus. Puis si je réponds, ça va être juste pire. Puis concernant les sites à potins dont tu parles, c'est pas totalement faux. C'est juste que, tu sais, je vais te donner l'exemple. Il y en a un qui a dit, Jean-François Barry, réclame. J'ai rien réclamé. D'un, ils n'ont pas mis en contexte que je fais une chronique à tous les jours avec toi. C'est comme si je m'étais invité sur ton show
pour me parler de ça.
Pour réclamer la défense de Guillaume Lemaitre-Vierge, alors que c'était pas ça. Tu faisais juste dire, point de vue humour, les jokes de boulot, on les a toutes faites.
Puis et en plus, je t'avais taquiné parce que je venais d'écrire une chronique où je faisais que des blagues de boulot. Fait que tu sais, c'est tout ça, toute cette dynamique-là. Mais je pense que il y a certains de ces sites, pas tous, qui feraient bien de s'acheter un dictionnaire, parce que des fois, ils utilisent des mots, tu dis « boy, pense que tu sais pas ce que ça veut dire, ce mot-là, mon grand! »
Ou au contraire, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais tu sais, puis là-dedans, je parlais pour moi de l'humour en général, dans le sens que maintenant, comme tout le monde en fait, tu sais, sur les médias sociaux, là, mon oncle Serge, la jeune Daphné, tout le monde peut se poser puis faire un gag qu'on a.
Oui,
mais ce que ça fait, c'est quand tu as une émission, comme dans le temps, nous, les mecs comiques, là, bon, il aurait fallu faire, OK, mais cette joke-là, elle a été faite mardi par Gaston de Rivière-du-Loup. Je peux pas, faut que je toque Gaston de Rivière-du-Loup. Fait que les médias sociaux t'amènent, si toi t'as une équipe de writer puis un budget, t'amènent logiquement à te dépasser.
Plus
c'est
haut.
Juste ça que je disais. Puis je disais que, tu sais, je pense que là, on peut le laisser tranquille, mais oui, écoute, ça s'est promené. Et pour te dire, samedi, je suis allé au spa avec ma blonde.
Oh. OK? T'étais en speedo, puis il y a quelqu'un qui t'a parlé de ta chronique à Cube?
Non, pas du tout. Puis cela dit, il y a eu plein de messages positifs
oui,
aussi.
Oui,
là,
ben oui.
Évidemment, on accroche toujours un peu trop sur les autres. C'est juste que, bon, avec mes enfants qui étaient à gauche puis à droite, des fois, mettons, quand j'allais à la salle de bain, je checkais quand même mon téléphone.
Ah.
Puis là, quand j'ouvrais mon téléphone, je voyais pas des nouvelles de mes enfants, mais je voyais genre 56 nouvelles notifications sur Twitter. Puis là, je faisais, oh, je vais-tu lire ça ou... Ou ça m'aidera pas à me détendre.
Non, ouais, donc.
Tiens, je vais le.
Un petit sauna.
De côté,
un petit sauna. Écoute, il nous reste quand même 3 minutes pour parler de ton sujet, mais c'est pas grave. Tu voulais me parler philosophie avec le pont de Baltimore qui s'est effondré. Ça t'a inspiré une réflexion philosophique?
Mais en fait, moi, ça me trouble à chaque fois que je vois ça, ce genre d'événement-là, parce que ça nous rappelle, puis là, tu sais, je vais y aller droit au but, à quel point la vie, elle est fragile. Il manque toujours 6 personnes à l'appel. Je veux dire, tu prends un pont un matin, comme on en prend à tous les jours, là. Puis là, c'est ta dernière traversée, tu sais. Mais quand est-ce qu'on prend le pont Jacques-Cartier, qu'on voit venir un bateau, puis qu'on se dit, tout d'un coup, qu'il heurte le pont, puis que le pont s'effondre, tu sais, on fait toujours confiance à la vie, tu sais. Je me rappelle, tu viens du viaduc qui avait perdu des
absolument,
morceaux à Laval.
Absolument.
Comment ça se fait que ce couple-là était, tu sais, pas plus avancé, pas plus reculé, là, à ce moment-là, tu sais, puis on en prend, des fois, moi, quand je prends des hauts viaducs, là, à Montréal, il y en a plein, là, à Anjou, à la sortie du pont Champlain, tu fais, hey, tabarouette, on est haut, là, s'il y a un technicien qui a mal fait ça. Fait qu'on fait beaucoup confiance quand on rencontre sur les routes, là, des camions de bois, là, s'il faut qu'ils s'en viennent dans ta voie, tu peux rien faire, tu sais. Comme ce matin-là, ces gens-là pouvaient rien faire, puis on en parle souvent dans la maladie, de dire faut profiter de la vie parce qu'un cancer, une crise cardiaque, quelque chose s'est vite arrivé, puis, mais on n'en parle pas assez. Ben, pas qu'on n'en parle pas assez, mais il faut juste réaliser à quel point c'est fragile. Que tu quittes un matin, tu sais, il y a des messieurs là-dedans là, qui sont peut-être partis travailler ou des madames, ils ont embrassé leurs enfants, leurs femmes avant de partir, ils sont partis, ils prennent le pont, ils s'en vont travailler. Sophie, il n'y a rien de... Puis,
non, c'est pas un sport extrême, là, t'es pas en train de te jeter du...
T'es pas à sortir moi d'ici, là.
Mais, c'est pas ça que je voulais dire, mais...
Mais moi, c'est toujours ça que ça
t'es
vient
pas enfermé,
de dire...
T'es pas enterré vivant avec des serpents, là. T'es tranquillou-bilou, là.
On fait confiance à tout le monde. On traverse une lumière rouge parce qu'elle vient de tomber verte. On prend pour acquis que les autres vont arrêter. Mais
absolument.
Fait que bref, prenez soin de votre monde, puis prenez le temps de vivre. Attendez pas à la retraite, attendez pas dans plusieurs mois, attendez pas, prenez le temps de vivre au quotidien, parce que tabarouette que quand on voit ça, ça saisit. C'est fragile.
On la chante-tu?
La vie
est
si fragile.
Et la vie est si fragile. Pas sûr, hein?
Non, c'est si beau ce morceau-là, je ne sais pas si on y rend justice.
Je pense que c'est... Ah, on a Luc de La Rochelière sur la 2 qui demande, s'il vous plaît, de ne pas écorcher sa chanson. Merci Luc, il n'y a pas de problème. Merci.
Bonne journée.
Merci Jean-François.
Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue.
Ah oui, ben c'est ça, on était en train de parler avec Nicolas Ciccone et puis on se rappelait des bons souvenirs des quelques fois où je l'ai interviewé et qu'on se parlait un petit peu en italien. Allora, come stai? Tutto a posto?
Sto benissimo, et toi?
Ed è anche io. Nicolas, on va pas faire toute l'entrevue en italien.
Non, parce que ça serait plate pour le monde. Ouais.
Ce serait plate pour le monde, mais quel plaisir de te voir, surtout que, bon, tu sors un album le 29 mars, mais c'est un album aussi qui souligne tes 25 ans de carrière. Et moi, je vais faire quelque chose, je vais cligner des yeux, OK? J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux et que ce 25 ans-là est passé excessivement vite. Il me semble que Tu viens d'arriver. Ils sont passés où, ces 25 années-là?
Écoute, je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça a passé vite. Moi, j'ai l'impression que j'ai travaillé très, très, très fort.
Ben non, je sais.
Mais c'est sûr que on est tellement toujours concentré dans l'instant, dans le aller construire, faire un nouveau projet. Moi, je le sais, j'ai fait 15 albums en 25 ans. Donc,
c'est fou.
C'est presque un album à chaque année et demie. Et on est, tu sais, quand on est jeune, on est ambitieux, on veut réussir. Je te dirais que dans mon album, il y a une chanson qui s'appelle « Le talent pour être heureux ». C'est un talent que je n'ai pas nécessairement, mais sur lequel je travaille énormément. Et le talent pour être heureux, c'est aussi de se connecter avec le moment. C'est d'essayer de profiter de l'instant présent, ce que j'ai pas toujours fait dans ma vie. J'ai toujours été très très ambitieux. On avance, on crée un nouveau projet, on va vers un nouveau succès. J'apprends aujourd'hui à être un peu plus dans l'instant présent parce qu'effectivement, la vie passe vite.
La vie passe vite, mais en même temps, tu fais partie des gens qui restent, qui durent. Et dans le milieu de la musique au Québec, il y a tellement de gens qui n'arrivent plus à vivre de leur art ou n'arrivent plus à avoir leur présence auprès du public. Toi, tu peux dire, Nicolas Ciccone, moi, je suis encore là 25 ans plus tard. Et ça, c'est un accomplissement extraordinaire, Nicolas, non?
Ah, écoute, surtout quand quelqu'un fait à sa tête constamment et
oui.
écrit ses propres chansons. Tu sais, j'ai indiqué presque 200 chansons avec cet album-là.
C'est fou!
Ouais, c'est fou. Puis c'est drôle parce que c'est une belle question. Quand j'écrivais l'album, au début, je savais pas que j'écrivais un album, mais vers le mois de mai, j'avais des chansons comme « Maman »,« Je t'ai trouvé, je te garde »,« Chemin de montagne » qui parle des Hautes-Laurentides puis du Québec. Je me rendais compte que j'étais en train de rendre hommage dans chacune de ces chansons-là. Puis je comprenais pas trop pourquoi. Ben, je me disais, ben, c'est mon 25e anniversaire. Puis après ça, je me disais, ben oui, mais ça serait ben trop pompeux de me rendre hommage à moi-même. C'est logique que je rende hommage aux autres parce que c'est grâce au public québécois, comme tu dis, que je fais ce métier-là depuis 25 ans, et aussi grâce à beaucoup de femmes qui m'ont aidé tout au long de ma carrière, évidemment ma mère, à qui je rends hommage avec la chanson « Maman », mais aussi Lise Richard, qui est ma gérante, que tu connaissais.
Ben oui, qui a été très affectée par son départ.
C'est sûr, j'ai travaillé avec elle presque toute ma carrière, 21 ans.
C'est fou, hein?
C'était ma meilleure amie, c'était ma conseillère. Et donc, c'est sûr que elle m'a appris le métier de producteur, de chanteur. Et ça m'a vraiment, vraiment atteint. Mais bon, je continue. Elle est toujours là, comme je le dis dans la chanson 11. Elle fait partie toujours de mon parcours, oui.
Alors, j'aimerais ça qu'on écoute un extrait de ton nouvel album. Donc, la chanson-titre, « Je t'ai trouvé, je te garde », on écoute ça. Puis moi, je veux te regarder, mais j'aime ça, vous regardez des artistes quand on entend, quand on les voit entendre leur chanson. On écoute ça.
« Je t'ai trouvé... » Je te garde, malgré le temps qui passe, on s'est rencontrés parmi tous ces cœurs perdus. Quand je t'ai vu, j'ai pris ta main, comme on ose prendre un fruit défendu, et je t'ai donné tout ce que j'avais de bonheur.
Moi, je vois beaucoup de parallèles entre cette chanson-là et « Je t'aime tout court », la chanson qui t'avait fait connaître en 2004.
Ben, c'est des chansons, c'est sûr, qui sont proches de mon style.
Ouais.
J'ai beaucoup de chance parce qu'on dit que j'ai une signature.
Ouais.
Donc, quand on est un artiste, on cherche à avoir son propre style, à ne pas être comparé à d'autres. Donc, je trouve que c'est un compliment que tu viens de me faire de me comparer à une de mes chansons les plus importantes. Mais je te dirais que la différence, c'est sûr que dans l'approche, c'est la même chose. C'est la simplicité. C'est un arrangement dépouillé. Mais si je regarde « Je t'aime tout court » puis je regarde « Je t'ai trouvé, je te garde », la différence, c'est probablement l'âge, la maturité. Mm-hmm. Je vois moins l'amour comme quelque chose qui est beaucoup plus parfait, idéaliste, comme à l'époque. « Je t'ai trouvé, je te garde », je dis des phrases comme « ben je vais rester là même si l'amour se casse, comme on répare un vase, je vais recoller les bouts. » Pour certains, ça va faire « Hey, ben c'est quoi cette image-là, un vase qui se casse? » Mais pour moi, c'est super beau parce que l'amour, c'est imparfait. Et de le comprendre, de l'accepter, puis de rester malgré tout, c'est encore plus beau que si c'était toujours parfait. Toi, je sais pas comment ça se passe avec Richard. Probablement que vous autres, c'est toujours parfait.
Mais non, mais Richard est parfait. Enfin, Richard est peut-être imparfait, mais moi, je suis parfaite. Je vous l'annonce tout de suite.
Non, mais toi, mais lui. Donc, toi, t'as beaucoup de mérite. Tu restes.
Non, et on a tous les deux du mérite.
Et c'est la même chose avec... mais donc, c'est ce que je répondrais par rapport à cette chanson-là. Mais c'est sûr que la façon que je fais mon métier, la chanson à texte, ce texte-là, je l'ai travaillé pendant un mois, reste la même. Je veux trouver des mots qui vont être universels, mais en même temps que j'ai pas entendu mille fois. Donc, cette phrase-là, je ne l'ai jamais entendue, « Je t'ai trouvé, je te garde » comme titre de chanson, mais ça veut dire quand même que l'amour dure. Donc, c'est toujours ce que j'essaie de faire.
Mais il y a un petit côté aussi, puis je pense que tu vas l'aimer parce que c'est une belle référence, il y a un petit côté aussi de la chanson « Des vieux amants » de Jacques Brel.
Ah, c'est gentil. Écoute, c'est un grand compliment, mais... Ouais. C'est sûr.
Bien sûr, nous eûmes des orages.
C'est ça, c'est ça.
30 ans d'amour, c'est l'amour folle.
Probablement que je suis habité par ces références-là. Ouais. C'est des gens que j'ai écoutés. Jacques Brel, c'était mon idole. Hein.
Ouais.
Ça l'est toujours. Donc, le subconscient travaille de façon mystérieuse et magique.
Alors, si je tape Nicolas Ciccone sur ce merveilleux outil qu'est Google Search.
Oui.
Ça m'amène aussi à ta fameuse chanson de 2021 sur les GAFA. Est-ce que les gens t'en parlent encore? Est-ce que ça a été un moment marquant quand même où tout ça est derrière toi puis les gens ne t'en parlent plus? Il y a juste des animatrices désagréables à la radio qui disent « Ah, j'aimerais ça qu'on en reparle un petit peu ».
Ben, c'est sûr que t'es la première personne qui m'en parle dans toute la meute de journalistes.
Ah oui?
Ouais, tu sais, c'est l'album 12, on est rendu à l'album 15, fait que, à un moment donné, il faut avancer, mais j'aime toutes mes chansons. Donc,
mais ma question, Nicolas, c'était pas pour te tendre un piège.
Non.
C'est juste parce que dans la communauté médiatique, mettons, il y a beaucoup de gens qui l'avaient commenté à l'époque. Je n'ai pas fait partie de ces gens-là. Ma question était vraiment, est-ce que le public t'en parle de cette chanson-là ou pour eux, c'est une chanson parmi d'autres?
Ouais, je pense que c'est une chanson parmi tant d'autres. T'sais, on me parle beaucoup plus, je te dirais, ces temps-ci d'Ô-toi, mon père, qui est la chanson vraiment qui est virale. Elle a 3 millions de visionnements.
Wow!
Puis c'est la chanson qui est la plus utilisée dans les salons pour dire adieu à un être cher.
T'es sérieux? Ouais.
Donc, je t'aime tout court pour les mariages, puis Ô-toi, mon père.
Non, mais ça, c'est intéressant.
C'est
ça
spécial.
Veut dire que les gens, tu fais partie de la vie des gens.
Ils m'utilisent pour leurs moments les plus émotifs, ce qui est quand même assez magique. Puis tu vois, depuis que j'ai lancé « Je t'ai trouvé, je te garde », c'est sûr, c'est pas très longtemps, ça fait peut-être un mois, mais il y a déjà, tu sais, 5 personnes qui m'ont écrit qui vont se marier dessus.
Ah oui.
Puis la chanson « Maman », je pense que c'est une chanson qui... écoute, ça fait juste 2 semaines qu'on l'a lancée, mais j'ai l'impression qu'elle va trouver son chemin parce qu'elle semble toucher beaucoup, beaucoup de gens. C'est très, très gratifiant parce que moi, celle-là, je l'ai écrite pour ma mère.
Ouais.
Mais quand je vois d'autres mères qui se l'approprient ou des enfants qui la donnent à leurs parents, ben, c'est magique. C'est pour ça qu'on fait le métier, je pense, d'auteur. En tout cas, c'est pour ça que moi, je fais mon métier, c'est créer des jouets musicaux que tout le monde va pouvoir utiliser.
Tu sais. Mais tu te rends compte la force que tu as de te dire qu'il y a quelqu'un qui, au moment des funérailles de la personne qu'ils ont le plus aimée, la personne qui les a fait venir au monde, que c'est avec tes mots qu'ils vont rendre hommage à cette personne-là. C'est fort en tabarouette.
Il y a quelque chose de très mystérieux, puis aussi qui dépasse... tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de très arrogant, là, mais quand quelqu'un me choisit pour me rencontrer en soins palliatifs, j'ai de la misère à comprendre ça. Tu sais, je me dis, ben, tu sais, il pourrait demander à Drake ou à je sais pas, quelqu'un, tu sais, d'international. Ouais. Mais c'est fou de voir aussi comment... notre milieu, le milieu québécois, puis la chanson, comment elle est importante, puis comment elle fait une différence, la chanson francophone, dans la vie des gens. On le sous-estime, ce petit micro-climat, tu sais, on disait ça à Ordonde, on est dans les anciens locaux d'Archambault, qui est une institution de la musique, donc la chanson québécoise, ça reste l'outil premier de la promotion de la langue française, puis ça touche des cœurs, ça les bouleverse. On accompagne les gens, c'est magique, t'as raison de dire que c'est particulier, c'est une belle réflexion. Ouais, je suis d'accord.
Merci beaucoup. Grazie mille, era un piacere come sempre. Merci beaucoup, Nicolas Ciccone. Je t'ai trouvé, je te garde. Mais moi, je t'ai trouvé, je te garde, mais là, je suis obligée de te laisser aller.
Pas grave, pas grave. Merci quand même pour l'entrevue. Puis,
merci.
Bonne fin d'émission, vous autres.
Merci, merci, Nicolas.
Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
Sophie Durocher.
Est-ce que vous avez vu cette nouvelle à la une du Journal de Montréal, Journal de Québec? On nous dit que les médecins sont de plus en plus préoccupés par la stéatose hépatique non alcoolique. On constate que le gras plutôt que l'alcool est en train de devenir la principale cause de greffe de foie dans le pays. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi je connais quelqu'un là. Ça fait des années que je fais des entrevues avec cette personne-là, puis ça fait des années qu'elle se préoccupe du phénomène du foie gras, puis ça fait des années qu'elle tire la sonnette d'alarme, en particulier chez les jeunes. Et cette personne, c'est Dr Julie Saint-Pierre, qui est lipidologue et pédiatre spécialiste de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Dr Saint-Pierre, j'ai tout de suite pensé à vous quand j'ai vu ce dossier-là. Je me dis, coudonc, ça fait des années que vous prêchez dans le désert.
Puis moi, ben en fait, Madame Durocher, quand j'ai reçu le message, je me suis dit, ben coudonc, il y a des gens qui se sont enfin réveillés parce que effectivement, si vous ne m'en aviez pas parlé, je vous en aurais parlé. On en a déjà parlé sur les ondes ici ensemble de cette maladie du foie gras chez les enfants qui est vraiment d'une épeurante là comme épidémie. Déjà avant la pandémie de COVID-19, on en avait parlé parce que on avait publié l'année précédant la COVID au niveau canadien que les enfants que l'on voit, nous, dans nos bureaux, qui souffrent aussi d'obésité, il y a jusqu'à 54 % de ces enfants-là qui présentent des signes de maladie du foie gras. Et dans la population générale, on parle d'autour de 35 %.
Donc, chez les moins de 18 ans.
Chez les moins de 18 ans. Il y a même une étude aussi qui a été faite à Montréal, au CHUM, il y a quelques années, parce que c'est un centre de greffe important, qui nous avait aussi montré que chez les hommes de 35 ans, c'était rendu la première cause de greffe non alcoolique de foie. Donc, c'est une donnée qui est très préoccupante à l'international et pour laquelle il n'y a pas de traitement.
Il n'y a pas de traitement, mais est-ce qu'on peut regarder en amont? En amont, donc avant. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention? Parce que c'est pas normal que plus de 30 % des moins de 18 ans présentent un foie gras. Là, je veux dire, c'est quoi? Donc,
C'est principalement alimentaire. Hein? Ouais. Il ne faut pas se cacher la vérité. C'est un changement de connaissance aussi. Il y a deux choses.
Qu'est-ce que vous voulez dire un changement de connaissance?
Ben, on ne savait pas il y a quelques années que le sucre naturel, dont le fructose, avait la capacité d'être métabolisé au niveau hépatique du foie.
D'accord.
Et d'être stocké sous forme de graisse. Or, si on consomme beaucoup trop de fructose transformée, mais qui ne contient plus la fibre naturelle. Donc, ici, prenons un exemple simple. Si on consomme du jus d'orange versus des oranges, bien, dans le jus, la fibre, elle est éliminée par le processus de transformation. Et à ce moment-là, le fructose devient métabolisable au niveau du foie, de l'intestin, et c'est ce qui cause la stéatose hépatique, la maladie du foie gras, c'est la surconsommation de sucre normal, mais aussi de sucre qu'on croyait d'apparence inoffensive, le fructose.
D'accord. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui donnent régulièrement un verre de jus d'orange ou deux verres ou trois verres de jus d'orange à leur enfant le matin, pensant que c'est une bonne idée parce que, ah tiens, il va avoir ses vitamines C pour la journée, on doit arrêter
bien
tout de suite?
J'ai une collègue pédiatre, oui, ce serait préférable de garder... En fait, on n'est pas dans l'exclusion. Hein? On n'est pas... C'est qu'on préfère que les gens soient informés et qui puissent rééquilibrer l'alimentation de leurs enfants.
D'accord.
Donc, on est dans une espèce de déséquilibre, l'accessibilité, c'est facile. Si ton enfant n'aime pas mâcher des fruits, des légumes, ben, tu vas y transformer pour qu'il boive, puis ça va plus vite. Donc, on veut pas culpabiliser les gens, on veut les informer.
D'accord. J'aime la nuance.
Oui. Et bien entendu, ben on souhaite que les gens en consomment de moins en moins.
Oui. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est donc les sucres, évidemment, tout ce qui est transformé.
Oui.
Et est-ce que, en effet, le gras, parce que bon, évidemment, moi, je pensais que la première réponse que vous alliez me donner, avant de me parler des sucres, ça aurait été la restauration rapide.
Ça n'en fait partie. L'ultra-transformation en fait partie aussi. Donc, tout ce que vous achetez qui n'est pas sans étiquette. Il y a un grand chercheur et professeur en ce moment qui voyage à travers le monde pour éduquer la population, justement. C'est un endocrinologue pour enfants qui voit ça, lui, et qui s'est alarmé bien avant moi dans sa carrière et qui lui dit, ben manger des aliments sans étiquette, des vrais aliments, un vrai aliment qui est bon pour la santé de vos enfants. Maintenant, tout ce qui est ultra transformé va aller aussi encrasser le foie. Donc, quand c'est sucré, mais quand aussi c'est gras.
Ouais.
Donc, exemple classique, trop de chips, à un moment donné, ça peut aussi augmenter la quantité d'acide gras qui circule au niveau sanguin puis encrasser le foie.
D'accord.
Donc, c'est un mélange de beaucoup de choses.
D'accord.
Puis ces choses-là sont peu chères, facilement accessibles
et
on n'empêche pas le marketing aux enfants.
Ah, voilà. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le doigt sur la chose la plus importante, c'est qu'on nous a dit, on a changé les règlements pour qu'il n'y ait pas de publicité, justement, auprès des jeunes.
Mais sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas.
Il y en a plein.
Puis écoutez bien ça. J'ai un exemple
assez
incroyable. J'ai une collègue pédiatre qui, en apparence, elle est néonatalogiste. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle voit des bébés prématurés, extrêmement prématurés. Elle fait des suivis de bébés, qu'on appelle les suivis postnataux. Et ce bébé-là a été suralimenté parce que, il est parti de la maigreur extrême, puis là, il est rendu dans une condition de suralimentation, d'obésité à 18 mois. Elle me l'envoie, puis elle me dit, Julie, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, il a un foie gras. Mais un foie gras, là, la limite chez les enfants, c'est 25.
D'accord.
Puis ça, c'est quelque chose qui a changé aussi. Quand on apprécie la qualité du foie, c'est le chiffre magique 25. Et cet enfant-là avait 75. À 75, là, il faut faire une biopsie du foie. Il faut faire des échographies. Mais c'est un bébé de 18 mois.
Ben voyons donc, Julie.
Mais ce bébé-là, si vous le voyez, il est cute à mort, puis vous allez dire, ça va fondre la graisse de bébé, puis on s'en fait pas avec ça. Mais maintenant, on a des recommandations qui disent, attention, t'as un enfant dans ton bureau comme médecin qui souffre d'embonpoint d'obésité. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que même ceux qui souffrent pas de ça ont la possibilité de l'avoir.
Ont la possibilité du foie gras.
Donc, on trouve des catastrophes comme celle-là, puis qui se soignent 100% par l'alimentation.
Incroyable. Bon, alors, je suis très contente que vous ayez, pendant toutes ces années-là, tiré sur la sonnette d'alarme et qu'on continue de le faire ensemble. Puis je vais vous inviter régulièrement, Dr Saint-Pierre, parce que je trouve que c'est un message qui doit passer. Merci beaucoup d'être venu nous remettre les pendules à l'heure et nous alerter à ce problème qui est vraiment, comme vous le dites, une catastrophe et une épidémie. Dr Julie Saint-Pierre, vous êtes lipidologue et pédiatre spécialiste de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup d'être venu nous parler.
Merci.
Sophie Durocher.
Un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
Payne, comment ça va, Nick Payne?
Bonjour Sophie, ça va bien toi?
Ça va mieux quand je te vois. Tu veux nous parler du gala des Oliviers? On va commencer par une mise en garde. Je ne l'ai pas écouté, j'ai simplement le lendemain écouté des bribes. Et mettons que les bribes que j'ai écoutées m'ont convaincu que j'avais bien fait de ne pas l'écouter en direct et de me taper plus de 2 heures de ça. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Qu'est-ce que ça nous dit sur la société québécoise ou l'état du milieu culturel québécois, ce gala des Oliviers de dimanche?
Ah oui. Mais d'abord, le forfait bribe est un bon choix, vraiment. Oui, j'aurais peut-être pu faire ça, bribon le plus possible dans ces cas-là. Oui. Sur la société québécoise, la question est vaste.
Mais sur le milieu de l'humour, le milieu culturel,
sans être évidemment un expert dans la chose fine du milieu d'humour, tout de même, j'ai un regard là-dessus. D'abord, tout était conforme. Tout était conforme, si tu veux, à l'esprit, à l'ambiance idéologique du moment dans le milieu culturel. Alors, il y avait la drag queen, il y avait
Mona de Grenoble.
La fluidité de genre, il y avait le moins possible d'hommes blancs apparemment cisgenre, truc hétéronormatif, machin. Il y en avait quand même, là, on peut pas s'en débarrasser complètement. Mais aussi, Il y avait, je pense, ce qui est probablement symptomatique là, du milieu. Ah, mais j'oubliais. Pardon, évidemment, beaucoup de femmes, on mettait de,
ben
en
oui,
avant, beaucoup co-animé de
par deux
jeunes
femmes, ouais.
humoristes, à tel point là-dessus, là, commentaire plus ou moins politiquement correct, moi je te dirais que parmi ces nombreuses jeunes femmes-là qui ont toutes un peu la même voix, le même ton, qui crient, qui je sais plus qui est qui là-dedans, là. J'en aurais pris une.
Mais c'était Eve Côté et Cathy Gauthier qui animaient, en tout cas.
Ça part d'Eve Côté de Cathy Gauthier, ouais, bien sûr.
Mais ça va ensuite, jusqu'à...
On en
ouais.
a vu plusieurs autres, y compris parmi les nominations, les nominés, qui sont un peu toutes dans le même moule. D'ailleurs, beaucoup de diversité corporelle aussi, hein, je vais le dire comme ça. Même, je dirais, une représentation plus forte que dans la société en général de diversité corporelle, surtout chez les femmes dans ce gala. Fin de la parenthèse non politiquement correcte. C'est un constat que j'ai fait aussi.
On se demander. Dit, mais en fait, c'est un hasard aussi, là.
Peut-être. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a des choix. Je pense qu'on a vraiment fait l'effort, au minimum, de mettre en avant des femmes. Là, est-ce que la diversité corporelle, bon, bref. Alors, il y avait ça, puis il y avait plus largement le constat qui je trouve, moi, qui se dégage de l'exercice, c'est on a l'impression que avec la multiplication du nombre d'humoristes et de spectacles d'humour, parallèlement à ça, avec la multiplication des plateformes et aussi un certain affaiblissement peut-être là, du Québec culture comme culture de référence, la culture francophone québécoise comme culture de référence au Québec, voilà. J'ai l'impression que tout ça converge et nous amène vers une sorte de... C'est facile de parler de dilution ou de baisse du niveau, mais en tout cas, on a l'impression que la gens humoriste retourne à la base, retourne dans les bars, dans les cabarets, puis on fait un humour plus...
Ras des pâquerettes.
Ben oui, j'essaie de trouver un mot qui serait pas trop péjoratif. J'allais surtout pas dire bas de gamme. Oui, mais effectivement, un peu au ras des pâquerettes. J'imagine que c'est pas faire honneur à la réalité. Je présume qu'il y a mieux que ça dans la réalité. Mais en tout cas, c'est ce que la facture générale de ce gars-là donnait comme impression. On était presque devant un truc de cégep
méchant.
J'ai trouvé que le calibre général de l'affaire, le français, quel mauvais niveau de langue française en général. On peut être très drôle en parlant relativement bien. C'est pas nécessaire de parler mal pour être drôle.
Je comprends ça me rappelle, te rappelles-tu quand ma très chère amie que j'adore et dont je m'ennuie tous les jours, Denise Bombardier, s'en était pris au milieu de l'humour en disant, mon Dieu, en déplorant la piètre qualité du français. Et la seule chose que Guy Lepage avait trouvé à lui dire, c'est quelque chose genre, va chier ou quelque chose comme ça.
Oui, oui, c'est montrer. Ça.
Mais c'était assez ironique quand même, c'était drôle. Mais donc, ce que déplorait Denise il y a quelques années, toi, tu le déplores aujourd'hui, la piètre qualité du français parlé par des humoristes.
On a beau ne pas vouloir tomber dans le cliché, j'ai beau ne pas vouloir faire un Denise Bombardier ou un Gilles Proulx de moi-même, je vois bien que le niveau baisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À chaque génération, il y a des gens de la génération précédente qui déplorent ça. Chaque génération qui se fait dire ça le prend un peu mal. Mais finalement, de fil en aiguille, de 20 ans en 20 ans en 20 ans, c'est vrai que le niveau baisse en général. Évidemment, je comprends que si ton personnage, toi comme humoriste, c'est une fille de salon de coiffure, de Boisbriand, qui a pas d'instruction, puis qui dit des choses un peu salaces et grosses, tu vas parler mal. Mais enfin, globalement, il y aurait moyen que le truc soit d'un peu meilleure qualité. J'ai trouvé que c'était pas toujours au niveau de ce point de vue-là. Une exception notable dans le gala, qui à mon avis détonne et démontrait un peu par l'inverse, ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, c'est Stéphane Rousseau, qui arrive et qui fait un numéro.
Ah, c'était tellement excellent, son numéro.
Magnifique. Voici le talent qui s'exprime. Mm. Probablement aussi la préparation, hein. C'était vraiment bien fait.
Au quart de tour.
Oui. Alors, il fait cette espèce de type qui essaie de dire des choses profondes, mais qui a pas de vocabulaire, puis qui s'enfarge, puis qui est un peu nerveux, puis qui veut faire dans la pensée profonde, mais qui dit des banalités. C'était très, très drôle,
brillant.
Vraiment.
Mais là, ça montre, je trouve. Ouais, mais c'est assez intéressant que tu choisisses ce gala-ci de cette année pour déplorer un certain nivellement vers le bas. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça que tu essaies de nous dire. Et en même temps, c'est ironique, donc, parce que le grand gagnant de la soirée, c'est quand même Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, qui est la seule personne que je connais qui, d'abord, a un titre de spectacle qui est inspiré d'Alfred de Musset et qui, parce que j'ai vu son spectacle, fait des blagues à un moment donné sur la rivalité. Pas juste sur Camus. Il fait une blague sur la rivalité entre Camus et Sartre. Et ça, oui. Je veux dire, d'abord, il faut que tu calcules la quantité de gens qui lisent Camus et en plus que tu divises ça par la quantité de gens qui sont au courant de la chicane épique entre Camus et Sartre. Puis le gars, il cite Rimbaud, puis il cite... Alors, quand même, tu peux pas reprocher à PALSJ de niveler vers le bas ou de pas bien parler français quand même.
Mais je te suis là-dessus. C'est pour ça que je disais d'emblée, peut-être que ce gars-là trahit un peu, peut-être qu'il ne représente pas correctement ce qui est vraiment dans son ensemble le milieu de l'humour. Puis voilà, la rue Saint-Jacques exprime parfaitement que c'est peut-être le cas. Mais globalement, beaucoup vraiment de trucs un peu cheapettes, un peu ordinaires dont je me serais passé, je sais pas, ça prendrait peut-être une animation un peu plus resserrée, de meilleurs animateurs.
Alors plus de la rue Saint-Jacques et moins de blagues de, comment tu l'as appelé, la coiffeuse de Boisbriand. merci beaucoup.
Sans préjudice aux coiffeuses de Boisbriand.
Tu te fais des amis. À chaque fois que tu ouvres la bouche, tu te fais des amis, Nick Payne. Merci beaucoup. À la prochaine. Je voudrais remercier Marianne Bessette et Maxime Sayeux à la recherche. Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde. Merci à vous d'être là. Rendez-vous demain.